Bonjour à toute la communauté ODC TV et bienvenue pour ce nouvel épisode où l'on parlera d'un auteur méconnu du grand public mais dont la notoriété à gauche autant qu'à droite de l'échiquier politique n'est plus à faire, du moins en France. Je parle bien entendu de Jean-Claude Van Damme, non je déconne, de Jean-Claude Michéa. Mais s'il est lu à gauche, il est surtout détesté et vilipendé par cette dernière, qui le qualifie de réactionnaire, de conservateur et d'idiotie de l'extrême droite. Car Michéa fait partie des rares intellectuels français contemporains dits de gauche qui critiquent radicalement autant le mode de production capitaliste que la gauche elle-même, dont les trahisons n'ont d'égal que leur vacuité intellectuelle. Alors, il n'est pas le seul à le faire, et il me semble important de le rappeler, puisque bien d'autres, après Debord ou Kluskar, ont entrepris le même cheminement, et nous pouvons citer d'autres intellectuels plus contemporains, en allant des plus brillants comme Alain Soral et Francis Cousin, vers les plus soporifiques comme Frédéric Lordon, sans oublier les révolutionnaires de salon. J'ai nommé Bégodeau, qui faute de radicalité conceptuelle, a au moins le mérite d'avoir une belle plume et une capacité rhétorique évidente. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un passionné de livres et de concepts, mon ami Mohamed Sandeh. Mohamed Sandeh, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir et merci d'avoir d'ailleurs pris l'initiative de parler de cet auteur et du livre dont on va parler aujourd'hui, intitulé « L'Empire du moindre mal » pour qualifier le libéralisme et la modernité libérale. Alors, lorsqu'on parlait hier en off, tu m'avais fait part du fait que ce livre de Michéa, et que Michéa au sens large, fait partie des intellectuels qui t'ont le plus marqué dans ton cheminement intellectuel, donc notamment son livre « L'Empire du moindre mal » dont on va parler aujourd'hui. Alors, peux-tu nous parler de cela? Comment Michéa s'est introduit dans ta vie et dans quelle mesure il a chamboulé un peu ta vision des choses, notamment par rapport au libéralisme à l'époque contemporaine?
Pour reprendre une métaphore cinématographique, je vais te dire que « L'Empire du moindre mal », je l'ai lu en 2011, je pense. Et c'était la pilule rouge dans Matrix, tu vois. Depuis, je vois le monde vraiment différemment. Malheureusement...
Bon, dois-je comprendre que tu étais gauchiste avant de le lire ou...
Sans aller jusque-là...
pas d'insulte, plutôt.
Non, mais disons que je croyais encore au clivage gauche-droite.
D'accord.
Mais on va y revenir. Grâce à lui, je vois vraiment les choses différemment. Quand j'ai vu Macron, j'ai compris Macron. Tu vois, le faux clivage... démocrate, républicain aux États-Unis aussi, grâce à Michéa, c'est limpide. Mais pour commencer, si tu permets, je voulais te poser une question. Quel est ton rapport à Maître Gims?
Aucun. Mais vraiment aucun. Je ne connais même pas, je veux dire.
Mais il t'irrite, tu es...
C'est du rap, j'imagine.
C'est un chanteur français parmi les plus prolifiques et celui qui vend le plus de disques en France.
Mais pardonnez mon ignorance, mais c'est du rap quand même, j'imagine.
Oui. Oui, c'est du rap.
Du slam, du rap.
Du slam,
non,
du
non,
rap.
Mais pour moi, c'est une musique de sous-prolétaire, de l'open prolétariat,
d'accord.
Je veux dire. C'est...
Mais pourquoi je me suis permis de te poser...
Mais après, personnellement, je ne peux pas le juger, je n'ai jamais écouté sa musique, donc je ne connais pas.
D'accord. Mais pourquoi je te pose la question? Parce que, justement, en utilisant les concepts de Michéa, ce que je peux te dire et t'expliquer... Maintenant que tu me dis c'est de la sous-musique, c'était quoi
musique de sous-prolétariat.
De sous-prolétariat, exactement. Tu as émis un jugement sur la musique de Maître Gims, tu vois ce que je veux dire?
Oui, tout à fait, un jugement assumé.
Voilà, mais de quel droit, je souligne ici le mot droit, de quel droit t'es-tu permis ce jugement, tu vois ce que je veux dire?
En partant d'un canon esthétique et d'un référentiel culturel qui est le mien, et naturellement, on juge toujours à travers un prisme, qui est celui de notre culture, de notre enracinement et de notre identité.
Voilà, exactement. Donc, je vais utiliser ce que tu viens de présenter comme argument pour t'expliquer la thèse de Michéa. En fait, imaginons que toi et moi, on fasse société.
Oui.
Alors, à partir du moment, on va prendre deux exemples. Par exemple, si on se bat contre notre voisin parce qu'il écoute Maître Gims, ça va nous fédérer, ça va nous rapprocher.
Oui, d'accord, ça va faire communauté.
On va faire communauté contre notre voisin.
Oui.
Mais par contre, si toi tu aimes Maître Gims et que moi je le déteste ou vice-versa, ça va créer une guerre civile.
Tout à fait.
Entre nous.
Des tensions.
Déjà, Platon, il faisait la différence entre la stasis, qui est la guerre civile, et la polémos,
qui est
la guerre d'où vient le mot
polémique. Polémique,
exactement. Donc, pourquoi je te dis ça? Oui, excuse-moi, je reprends le fil de mes idées. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as fait appel à des valeurs, à de l'esthétique pour émettre un jugement.
Oui.
pour émettre un jugement quant à la musique de Maître Gims. Alors, ce qu'explique Michéa, ce qui est très important dans son livre, c'est que, en fait, après le traumatisme des guerres de religion au XVIe et XVIIe siècle en Europe,
les guerres de 30 ans,
les guerres de 30 ans, les guerres entre catholiques et protestants dans le royaume de France, auxquelles l'édite de Nantes d'Henri IV a mis fin, il y avait une anthropologie négative de l'être humain. Quand Hobbes dit que l'homme est un loup pour l'homme, c'est à partir de ces guerres qu'il émet ce jugement. D'accord ? Donc, et c'est là la genèse du libéralisme. Parce que vont faire les libéraux ? Ils vont dire, pourquoi il y a eu toutes ces guerres, tous ces problèmes ? C'est parce que les gens se permettent d'émettre des jugements à partir d'un référent religieux.
Et donc indiscutable, non négociable.
Non négociable, et qui se permettent d'aller jusqu'à remettre en cause l'intégrité physique d'un voisin ou d'un camarade, d'un frère même, peut-être. Donc, que vont proposer les libéraux ? C'est arrêter, justement, d'utiliser des référents culturels et religieux pour gérer la société.
Donc une forme de neutralité théologique, enfin une atrophie totale de la dimension, de toute dimension qui permettrait une distinction entre les gens.
Voilà, exactement. Michel appelle ça la neutralité axiologique de l'État. C'est-à-dire que l'État doit se borner à être juste. C'est la primauté. C'est ce que Michel appelle la primauté du juste sur le bien. D'accord ?
D'accord, donc le bien et le mal, on évacue la dimension morale.
Exactement.
On évacue la dimension vérité avec un grand V. On est dans une forme de neutralité.
Axiologique. Et tout ce que doit faire l'État, en fait, c'est garantir que ma recherche de liberté et ta recherche de liberté n'entrent pas en collision. Le meilleur exemple pour ça, c'est le code de la route.
Oui.
Tu vois, parce que, par exemple, tout ce que doit faire l'État, c'est empêcher que deux voitures rentrent en collision. Mais ce qui se passe à l'intérieur des voitures, ça ne regarde aucunement l'État.
Donc la morale, voilà.
Que tu écoutes Maître Gims dans ta voiture ou Fairuz, ça te regarde. L'important, c'est qu'on ne se batte pas parce que toi, tu écoutes... par exemple, si on se croise à un feu rouge et que tu écoutes Maître Gims et que moi, Fairuz, je n'ai pas le droit de descendre ma vitre et de te dire pourquoi tu écoutes... Tu écoutes Maître Gims, c'est ça. Enfin, je tire trop sur mon exemple, mais c'est juste...
Non, mais je comprends. Bon, il a atteint ses limites.
Il y a une citation que j'aime beaucoup de Carl Jung. Je sais que tu apprécies beaucoup Carl Jung. Quand il dit que les hommes pensent avoir des idées, mais c'est les idées qui ont des hommes. Et je trouve ça absolument magnifique, parce qu'en fait, le libéralisme, c'est un fait social total, pour reprendre la terminologie de Marcel Mauss. On est tous libéraux. Et on n'a même pas besoin de le conceptualiser parce qu'on l'est dans notre vie de tous les jours.
Comme il m'arrive de dire, le libéralisme est l'idéologie de celui qui n'en a pas.
Exactement.
Aujourd'hui.
Et je me rappelle même au tout début de Facebook, quand on nous demandait nos opinions politiques, tout le monde, enfin la quasi-totalité de mes amis m'étaient libéral parce qu'ils confondaient vaguement le fait d'être libéral avec la liberté dedans.
Avec l'ouverture d'esprit.
Avec l'ouverture d'esprit, exactement. Et c'est ce qui a...
Après, pardonne-moi, mais juste pour être honnête, du point de vue des théories politiques de la modernité, enfin, toutes les idéologies prétendent à devenir un fait social total. Je veux dire, le communisme, pareil. C'est toutes les dimensions de l'être qui doivent être repensées, réinventées, voilà, reconceptualisées du point de vue communiste, pareil pour le fascisme, pareil pour... C'est juste que le libéralisme a triomphé.
Voilà, je suis d'accord avec
qu'il
toi.
Qu'il a déconstruit toutes les autres.
Mais si je me revendique en tant que communiste, tu vas me poser la question, tu vas me dire pourquoi tu es communiste, je vais devoir argumenter.
Exactement.
Alors qu'en tant que libéral, c'est le fait de ne pas être libéral qui va poser question.
Tout à fait.
Tu vois,
c'est là qui est un peu louche, un peu...
Voilà. Mais le fait d'être libéral, on se dit, bon, la liberté. Mais ce qui est important de comprendre...
En plus, c'est un euphémisme pour cacher le fait qu'un individu est capitaliste. Capitaliste étant devenu tabou du fait de la dialectique durant la guerre froide, et ben, ça permet également de camoufler la réalité capitaliste. On dit libéral, ça paraît plus gentil, il y a le mot liberté dedans. Donc c'est une forme d'euphémisation du capitalisme, du point de vue du langage.
Exactement. Et tu as même une revendication de gauche dedans, parce qu'être libéral, c'est être de gauche aussi.
À l'origine. Très rapidement, la gauche s'est délestée du terme, pas de la réalité du libéralisme, mais du vocable, du mot qu'elle a balancé à la droite. Et qu'aujourd'hui, on dit que la droite, c'est l'argent, et donc la droite, c'est le libéralisme, et l'ultralibéralisme, néolibéralisme, enfin tous les néologismes, tandis que la gauche est plutôt voilà, du côté populaire, bien qu'elle incarne toujours réellement le libéralisme, le premier libéralisme.
C'est exactement la thèse de Michel. C'est ce que je vais essayer de développer pour nos auditeurs, pour les inciter à lire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Il faut revenir sur le terme de liberté. Qu'est-ce que la liberté pour les premiers libéraux? Quand je te dis les premiers libéraux, c'est Benjamin Constant, toute la clique.
Non, Adam Smith du côté écossais, enfin
Adam
du côté
Smith.
britannique.
Adam Smith, exactement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que, par exemple, la liberté du temps de l'islam, c'était un esclave affranchi. Pour Hegel, tu sais, c'est l'esclave qui, à la toute dernière minute, choisit de demeurer esclave pour rester vivant. Chez Spinoza, c'est le fait de comprendre ses déterminismes.
Exactement.
Alors que pour le libéral, il y a une citation absolument magnifique de Benjamin Constant où il dit le but des modernes. Merde.
C'est pas grave.
Pardon. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées. Et il nomme liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. C'est juste ça.
Donc c'est toujours une dimension hédoniste, même si le terme n'est pas propre à cela, mais disons que le libéralisme, c'est ce qui rend possible mon hédonisme dans le privé.
Exactement. C'est le fait de poursuivre mon bonheur et que l'État me laisse tranquille, ne m'impose aucune notion de bien ou de mal.
Donc c'est une définition très charnelle. La liberté, enfin pas charnelle uniquement au sens du corps, mais au sens des jouissances.
Exactement. Et dit aussi dans un autre livre, Benjamin Constant toujours, il dit que l'État se contente d'être juste, nous nous chargerons d'être heureux.
Oui, mais en même temps, cette phrase peut paraître séduisante, aujourd'hui en l'occurrence, parce que toutes les idéologies qui ont prétendu ou qui ont formulé la promesse d'un bonheur généralisé universel, en général, ça s'est soldé par des millions de morts, je veux dire. Que quand l'État veut penser le bonheur à la place de tout le monde, eh ben, tout naturellement, il cherche à intégrer toutes les individualités, les idiosyncrasies dans un seul et même moule qui est celui de l'élite qui dirige l'appareil étatique. Et que quand le libéralisme vient dire non, 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 le but de l'État, c'est pas de faire entrer les gens au paradis, c'est pas de les rendre heureux, mais c'est uniquement de leur octroyer les moyens de la jouissance et qu'ils n'ont qu'à construire le bonheur eux-mêmes, honnêtement, ça paraît séduisant,
Oui,
je veux dire.
mais sur le papier, le libéralisme est une très bonne idée. Mais
Exactement, c'est utopique, comme le communisme, comme...
exactement, comme dirait l'autre, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et malheureusement, ça donne l'état actuel, c'est-à-dire encore, on a voulu éviter la guerre de tous contre tous et on est arrivé à la guerre de
Oui,
tous contre
autrement.
tous.
D'ailleurs, Michel distingue le capitalisme théorique, c'est-à-dire celui qui est beau sur le papier, du capitalisme tel qu'il ne pouvait être autrement, c'est-à-dire celui qu'on a aujourd'hui.
Oui,
Que
surtout
voilà,
le
on nomme
libéralisme.
libéralisme, le libéralisme concret, réel, celui qui est incarné, pas
Exactement.
celui dans le papier.
Exactement. Mais il préfère le libéralisme parce que pour lui, le capitalisme, c'est juste
Un
un
de plus.
développement du libéralisme.
Oui, mais en même temps, il dit que le libéralisme, c'est un peu la forme épurée de la modernité capitalistique. Parce que même le communisme, pour apprendre d'autres thèses, est un capitalisme d'État, même le fascisme est une forme de capitalisme d'État. Mais disons que le libéralisme est l'aboutissement naturel le plus pur, le plus adéquat au mode de production capitaliste. Donc on ne peut pas être libéral sans être capitaliste, je veux dire.
Oui, mais il précise dans l'Empire du moindre mal qu'il n'est pas partisan du matérialisme historique.
Oui, bah d'ailleurs, d'où le fait qu'on lui reproche d'être réactionnaire et
Exactement,
de
parce que
d'invoquer Orwell avec la comète
exactement.
Decency et
Et
voilà.
les anarchistes tories, les
Oui,
anarchistes conservateurs,
oui.
exactement. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que l'anthropologie est très importante,
Oui.
parce que le libéralisme n'est apparu que grâce à une anthropologie négative de l'homme,
Et
après les guerres de religion.
typiquement occidental, proprement
Exactement.
occidental, tout à
Parce qu'il
fait.
dit que même durant l'Empire romain, le capitalisme aurait très bien pu voir le jour.
Oui.
Seulement, les Romains n'étaient pas prêts anthropologiquement
Oui.
à aller vers le libéralisme.
Parce qu'il y avait encore une transcendance polythéiste, un idéal héroïque, etc. Il y avait encore des choses à déconstruire avant de rendre possible le capitalisme.
Exactement. Et tu fais bien d'utiliser le terme de déconstructionnisme parce que, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il y a deux piliers aussi de la modernité. T'as la
Et de la
philo.
postmodernité également, les deux.
Exactement. Tu as la philosophie du soupçon, le
Oui.
déconstructionnisme,
Oui.
Sandrine Rousseau, etc.
Oui. Pas le wokisme, le...
Voilà. Et
Enfin,
tu
ça commence très tôt avec Foucault, Deleuze, la French Theory, Derrida, le
Exactement. C'est pour
déconstructionnisme.
ça que je parle beaucoup de la France, pas
Bah, ça
parce
vient de
que.
là, on n'a pas le
Mais
choix.
tout vient de là,
Voilà.
exactement.
C'est parti aux États-Unis, puis ça nous est revenu dans un autre accoutrement, mais ça part de la France. Oui.
Exactement. Et tu as le relativisme culturel.
Oui.
Par exemple, si je te demande de me parler de tes modèles, je ne sais pas, si tu me parles de Che Guevara, je vais te dire, ah, c'est un assassin. Si tu me parles de Brel, à la place de Maître Gims, je vais te dire, oh, mais tu sais, il a laissé ses filles tout seul et il est allé faire le tour du monde, tu vois ce que je veux dire?
Forme de moraline, comme dit Nietzsche.
Il faut tout le temps déboulonner les héros, pardon.
Bah seulement c'était les zéros, ils commenceraient par eux-mêmes. Mais bon. Oui.
Déboulonner les héros et montrer que qu'il ne faut jamais croire en l'homme. Tu vois ce que
Mmh.
je veux dire? Il ne faut jamais croire en l'homme et toujours douter. Parce que dès qu'un homme s'érige en modèle,
Mmh.
on va
C'est
vers le
dangereux du point de vue.
vers le totalitarisme et le fascisme et les heures les plus sombres de notre histoire,
Mais le
etc.
paradoxe de. Alors, je ne vais pas parler de la postmodernité, parce qu'effectivement, c'est le terminus, enfin, la station avant le terminus, qui est celui du nihilisme le plus total. Mais si je parle de la modernité en tant que telle, il y a quand même un paradoxe. C'est qu'en même temps, la modernité, en voulant faire émerger le sujet individuel, elle a dû déconstruire un certain nombre de croyances, une certaine anthropologie, une métaphysique, un rapport au monde qui est un rapport transcendantal, où la mort est le début de tout, etc. Et donc elle a cassé l'homme religieux, l'homme métaphysique, mais elle a quand même fait endosser, enfin, elle a projeté au niveau de l'homme une nouvelle mission religieuse, qui est une mission prométhéenne, qui est celle que l'homme étant porteur de la raison avec un grand R, etc., il est capable de domestiquer la nature et donc de devenir Dieu lui-même en quelque sorte, en reprenant la phrase de Descartes, devenir maître et possesseur, comme maître et possesseur de la nature. Et ça va donner toute l'épopée moderne, tout le scientisme, toute la démarche scientifique. Ça va être l'apogée de la modernité du point de vue du paradigme. Et puis cette même modernité va dire, ah non, l'homme est un moins que rien, on a mythifié l'histoire, même la science, on va la déconstruire avec le paupérisme en disant que voilà, la science ne dit pas le vrai, que c'est une représentation du monde, qu'elle est falsifiable par nature, etc. Alors, est-ce que ce long détour, c'est-à-dire élever l'homme pour le rabaisser après, a pour finalité la mise en place d'une nouvelle religion qui est celle du marché, qui est impersonnelle, qui est désincarnée, qui...
Mais permets-moi de revenir sur la thèse de Michéa, comme ça je réponds à
Parce
ta
que je crois
question.
qu'il en parle de cette question de la religion du marché. Et au fait, on
Exactement,
a chassé la
la
théologie,
religion
mais
du
les
progrès.
voilà, mais elle est revenue par la fenêtre. Enfin, on l'a chassée par la porte et elle est rentrée par la fenêtre.
Exactement. Mais permets-moi juste de revenir sur la thèse de Michéa,
D'accord.
comme ça les choses seront plus claires. En fait, ce qu'explique vraiment Michéa, c'est que le libéralisme est de gauche.
Oui.
Mais tu vois, c'est ça qui est très important de comprendre chez Michéa. Tu as, comme je te disais, l'anthropologie négative de l'être humain. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à l'État de se limiter à permettre aux gens les jouissances privées, comme tout à l'heure quand je citais Benjamin Constant.
Oui, ça c'est au début.
C'est au début. Donc ça, c'est vraiment la genèse du libéralisme. Demander à l'État de dire le juste et non pas le bon. D'accord? Mais pour reprendre mon fameux
Exemple.
exemple pourri de Maître Gims, à un moment, il me faut un étalon quand même pour dire,
Le juste et l'injuste.
pas le juste et l'injuste d'un point de vue libéral, mais qu'est-ce qui fonctionne?
Donc il faut une base métaphysique.
Un étalon.
D'accord, un référentiel, un
Un
étalon,
référentiel. Et
voilà.
cet étalon, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le marché.
Donc l'utilité.
La main invisible, comme tu disais, il y a une cosmogonie du libéralisme.
Oui.
Et il y a des dieux.
Le
Et
marché, le.
le marché, c'est le Dieu chez les libéraux, c'est la main invisible d'Adam Smith.
Comme par magie, tout se règle et tout
Tout se
devient
règle. Et à
harmonieux.
partir du moment où les hommes vont poursuivre leur propre intérêt, c'est-à-dire
L'égoïsme
l'égoïsme,
individuel,
exactement,
voilà.
merci beaucoup. À partir de ce moment, tout va rentrer dans l'ordre. Et pour parler de Maître Gims, le chanteur, je vais utiliser chanteur faute de mieux, a vendu 2 millions d'exemplaires. C'est-à-dire que des individus rationnels ont choisi d'acheter son album ou de télécharger sur Spotify, Deezer, etc.
Donc le marché l'a adoubé.
Le marché l'a adoubé, merci.
D'accord.
Ça, c'est le deuxième temps du libéralisme. Et c'est ça qui est très important de comprendre chez Michéa. C'est-à-dire que la gauche accouche du libéralisme, mais utilise un étalon. L'étalon marché pour retomber sur ses pattes.
D'accord.
Donc, en fait, pour lui, le libéralisme, c'est une société minimaliste où la gauche donne le droit, le consentement, le contrat. L'important, c'est de consentir.
Oui, et d'ailleurs, il parle du fait, si on va dans cette logique et qu'on la pousse jusqu'au bout, bah, la prostitution peut devenir un métier décent, parce
Exactement.
qu'effectivement, c'est deux adultes consentants.
Exactement.
Bah, on peut même pousser la logique plus loin. D'ailleurs, c'est le cas dans certains pays d'Europe. Il y a même un débat en Allemagne où le conseil d'éthique a proposé de supprimer la pénalisation des rapports incestueux entre frères et sœurs.
Exactement.
En partant du même argumentaire, parce que voilà, l'autodétermination sexuelle des individus, l'État ne doit pas intervenir, et que voilà, c'est comme il n'y a pas d'ascendant et de descendant, c'est-à-dire où il y a un risque d'abus, et ben entre frères et sœurs, pourquoi pas? Donc on peut aller très loin dans ces délires-là, effectivement.
Exactement.
Parce que l'étalon est un étalon qui est fallacieux, initialement.
Exactement. Et c'est le marché. Donc,
C'est le marché, oui.
c'est ça surtout qu'il faut comprendre chez Michel. Tu vois,
Oui.
c'est la gauche qui donne le droit et c'est la droite qui donne le marché. C'est-à-dire, la forme, c'est le droit et le contenu, c'est l'économie. Mais au départ, c'est le droit qui. C'est le libéralisme, c'est le droit, c'est pas le marché.
Oui, c'est une doctrine juridique au départ et politique. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et même avant, on peut remonter même en Angleterre avec la Révolution de Cromwell, avec la Magna Carta au niveau du Moyen Âge. Parce qu'effectivement, c'est le droit qui ouvre des cheminements, qui structure, qui ouvre des voies pour que le marché puisse s'engouffrer par la suite.
Exactement.
Alors, la gauche n'est pas que cela, parce que comme on voit depuis quelques décennies, en tout cas depuis l'effondrement de l'Union soviétique et un peu avant avec la French Theory, parce que je rappelle que Deleuze s'est revendiqué comme étant quelqu'un de gauche et pas de droite, pareil pour la plupart des théoriciens de la French Theory, eh ben, ils ont joué un rôle assez particulier, qui est celui de faire un usage très particulier de la pensée de Gramsci, de l'idée de l'hégémonie et de la contre-hégémonie, en investissant le champ culturel, le champ intellectuel et le champ mental des individus, afin d'y déconstruire tout ce qui représente encore un frein à la marchandise, c'est-à-dire les résidus de morale qui est resté, les résidus d'ordre ou de structure harmonieuse avec son environnement, avec le monde, etc., afin de frayer un chemin pour le marché, afin que le marché puisse s'engouffrer dans ces brèches créées par la French Theory et par cette gauche culturelle, ce que les Américains appellent le néo-marxisme, le marxisme culturel. Mais en fait, c'est voilà, c'est pas du marxisme en réalité, parce qu'il n'y a pas de dialectique de lutte des classes, mais il y a une dialectique entre normes et périphérie. C'est-à-dire que la périphérie doit s'ériger en normes, mais quand tout devient norme, c'est qu'il n'y a plus de normes en réalité. Et donc la gauche a-t-elle abandonné le champ du juridique et du politique pour aller dans le culturel? Et est-ce que Michéa part de cet aspect-là?
Oui, il revient. Ce qui est très important, fondamental aussi à comprendre chez Michéa, c'est la genèse du faux clivage gauche-droite. En fait, pour lui, à partir de la Révolution française, déjà, on va revenir sur la terminologie, si tu permets.
Oui, bah déjà c'est géographie, enfin c'est
Exactement,
spatial.
exactement. C'est l'Assemblée durant la Révolution française. Les partisans du progrès étaient assis à gauche du président. Et à droite, c'était les partisans de l'Ancien Régime, ceux qui voulaient restaurer une
Oui.
partie ou la totalité de l'Ancien Régime.
Alors.
Mais là où on fait un anachronisme, on se trompe en pensant que le rôle de la gauche, c'est de protéger les travailleurs, les ouvriers, c'est qu'au moment de la Révolution française, les gens de gauche, c'est les partisans du progrès.
Oui.
Tu vois,
Oui, tout à fait.
parce que le tiers-État était composé de paysans et de bourgeois. Mais
Oui.
ceux qui étaient à l'Assemblée, c'était les bourgeois, c'était pas les paysans.
C'était les juges, les avocats, enfin tous les notables. D'ailleurs, on recommande la lecture des travaux de Marion Sigaud par rapport au jansénisme,
Exactement,
par rapport à une
exactement.
bourgeoisie ascendante qui a sapé les fondements de l'autorité monarchique. Voilà, c'est une forme de coup d'État de la bourgeoisie de la Révolution française.
Exactement, exactement. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais te dire? Voilà, c'est le faux clivage gauche-droite. C'est qu'à partir de ce moment-là, on se trompe quand on pense que la gauche, qui est née durant la Révolution française, a pour but de défendre
Le
l'intérêt
peuple.
des travailleurs. Parce que déjà, parler de socialiste, c'est faire un anachronisme d'un siècle au
Tout à
moins.
fait.
Tu vois ce que je veux
Oui,
dire?
tout à fait.
Et ce qui est très important de comprendre, c'est que ce clivage a duré jusqu'à l'affaire Dreyfus. En fait,
Et si tu
Michel.
permets juste un petit rappel avant d'aller à l'affaire Dreyfus,
Oui.
c'est que la loi Le Chapelier, c'est une loi antisociale et antipopulaire. C'est-à-dire on ne peut pas trouver de loi plus antipopulaire que celle-là. Celle qui interdit les corporations, tout regroupement des citoyens, ce qui va devenir les syndicats. Enfin, c'est ce qui ôte aux paysans, parce que c'était principalement ça, et aux ouvriers dans les manufactures, tout moyen de défendre leur intérêt collectivement. Donc c'est une fragmentation, un éclatement du tiers-État rendu possible par cette gauche du progrès. Alors pareil, on ne peut pas parler de gauche et anachronique au tout début de la Révolution, mais par ce libéralisme qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais par ce républicanisme qui va
Exactement.
très rapidement devenir se revendiquer comme étant libéral. Alors ça dure jusqu'à l'affaire Dreyfus. Qu'est-ce qui se passe avec l'affaire Dreyfus?
Ce qui se passe avec l'affaire Dreyfus, la gauche ouvrière, prolétaire, sociale, le socialisme se fait phagocyter par la gauche des Lumières au moment de l'affaire Dreyfus, au nom d'une union sacrée. tu vois, contre
l'Union
les
sacrée,
partisans
contre... Oui,
de l'ancien régime, l'armée, etc.
ouais, parce que
Tout ce qui
principalement...
représentait l'ancien cadre. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, la gauche se devait de faire des concessions à sa partie ouvrière, sociale. Mais au fil du temps, ce qu'on a vu sous nos yeux depuis l'avènement de Mitterrand,
Avec le tournant
en 1900,
libéral.
le tournant de la rigueur 1983, c'est qu'à un moment, la gauche du progrès se montre sous son vrai visage et dit à sa partie sociale, je suis désolé, je ne peux plus vous accompagner du fait des
Changement du
impératifs
monde.
capitalistes, on doit faire le couple franco-allemand, etc. Et c'est là où on passe de l'ouvrier à SOS Racisme,
Aux minorités,
aux
voilà.
minorités, à la défense des minorités.
À la marge, à la périphérie.
Exactement, et c'est ce qu'on est en train de voir se déployer sous nos
Oui.
yeux depuis 1983.
D'accord. Alors, tu as parlé de le libéralisme des Lumières ou de la gauche des Lumières. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Bon, là encore, c'est un anachronisme dans le terme, mais on entend bien ce que tu veux dire. Tu veux parler des racines et des origines du libéralisme qui remontent aux Lumières.
Oui.
Alors, dans quelle mesure les philosophes des Lumières ont contribué?
Mais excuse-moi, juste pour revenir sur l'affaire Dreyfus, comment on veut inciter les gens à lire, je voudrais juste citer une fulgurance de l'excellent Céline dans Bagatelle pour un massacre. Il dit cette phrase absolument géniale, il dit, le capitaine Dreyfus est bien plus grand que le capitaine Bonaparte, il a conquis la France et il l'a gardée. Pourquoi il dit
C'est
ça?
vrai, mais d'ailleurs, c'est vrai même aujourd'hui, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui.
Exactement, mais pourquoi il dit ça? Il dit pas que c'est le capitaine Dreyfus qui
Oui,
a...
bien sûr, c'est le paradigme
C'est
qui a
le
pris le
paradigme.
pouvoir.
Exactement. Récemment, sur France Culture, tu avais deux intellectuels dont je ne me rappelle plus du nom, mais qui pensaient que personne ne les écoutait, je pense, et qui se félicitaient du fait que la même politique dirigeait la France depuis l'affaire Dreyfus. Et cette politique, c'est quoi? C'est le libéralisme. C'est la fausse opposition dialectique gauche-droite. Et c'est très important de comprendre ça parce que d'un point de vue pour utiliser des mots savants d'un monisme, du monisme dialectique, le libéralisme a besoin de cette fausse opposition.
Quitte à la créer quand il le faut.
Exactement, comme lorsqu'on mange, on a besoin de mâchoire inférieure et notre mâchoire supérieure, ou lorsqu'on marche, on a besoin de notre gauche et de notre droite, c'est la même chose pour le libéralisme. Ils ont vraiment besoin de cette fausse opposition pour donner aux gens, aux électeurs, une fausse dialectique, une fausse
D'ailleurs,
opposition.
on le voit même aujourd'hui au niveau géopolitique, c'est que après la fin de l'Union soviétique, normalement, ce qui était attendu, enfin de la part des plus naïfs, c'était le démantèlement de l'OTAN et c'était d'aller vers la fin de l'histoire telle que voilà préconisée ou théorisée par Francis Fukuyama dans une perspective hegélienne. Mais on a vu que les États-Unis, en tant qu'incarnation étatique de ces paradigmes libéraux, a ressenti le besoin de créer des ennemis, toujours pour entretenir une fausse dialectique, ou en tout cas une dialectique qui lui est utile, mais qui est présentée faussement aux gens, en inventant le terrorisme avec l'islamisme, etc., puis en faisant de la Russie un ennemi qui en réalité était fictif, parce que la Russie, dès le départ, s'était rapprochée du monde occidental, et même les débuts de Poutine, mais tout a été fait exprès, en termes de provocation, en termes de tentative de déstabilisation, pour ramener la Russie à jouer le rôle de l'adversaire, afin de renouer avec cette dialectique et de détourner les colères populaires. On a vu avec les Gilets jaunes, on a vu en Amérique latine, au Chili, etc., des mouvements de révolte. Et comme par hasard, il y a eu le Covid qui est tombé, qui a atrophié toutes ces velléités de rébellion contre l'oligarchie mondiale. Et puis immédiatement, le s'étant voilà, épuisé.
Serais-tu complotiste, Charles?
Je vais ajouter un bip. Non, sérieux, je tiens ma chaîne YouTube. Immédiatement, on est passé vers l'Ukraine, voilà, et après autre chose. Et ça peut pas connaître une fin, c'est dialectique, effectivement,
Exactement.
il faut la créer à tout prix.
Tu as parlé de la nature tout à l'heure, ça aussi c'est important chez Michel, c'est qu'il dit qu'à un moment, à partir du moment où on empêche la guerre des êtres humains entre eux, il faut décider d'un autre ennemi, et ça, c'est la nature. On va combattre la nature, on va la dompter, c'est la croissance illimitée dans un monde aux ressources limitées, ce qui est déjà une aberration en soi.
Bon, après l'écologisme.
Oui, je vais te faire une autre citation, si tu permets.
Ah oui.
Alors, imagine, je te fais une citation et tu essaies de deviner de qui
Ok.
elle est. Alors, tu as quelqu'un en 1968 qui dit, notre croissance ne prend pas en compte la beauté de notre poésie ou la stabilité de notre mariage.
68.
Oui,
Je sais pas.
en critiquant la croissance. Et je vais t'aider,
Attali.
c'est pas un gauchiste. Mais regarde la beauté du. Il dit qu'en fait, notre croissance prend en charge, prend en compte les ventes d'armes, etc. Mais elle ne prend pas en compte la beauté de notre poésie,
Oui.
ni la stabilité de nos mariages. C'est Bob Kennedy.
D'accord.
Ce reproche fait à la croissance, je l'ai jamais entendu, même si les plus gauchistes des gauchistes, tu
Bon,
vois.
après, c'est également un reproche qui peut être critiqué d'un certain point de vue. C'est qu'au fait, ce reproche rend service au capitalisme. Je vais m'expliquer.
D'accord.
Au fait, ce que le capitalisme appelle aujourd'hui le capital immatériel. Parce que quand on lit Marx, on comprend très bien qu'il y a une logique inhérente au mode de production capitaliste qui est la baisse tendancielle du taux de profit. Parce que voilà, il y a la saturation des marchés, il y a la composition, la structure organique du capital qui change, puisque la part travail diminue au profit de la part machine, et le profit émanant du travail non payé, c'est-à-dire du travail humain, et bien plus on mécanise la production, et bien plus le profit diminue, jusqu'à atteindre la crise. Voilà. Et on détruit de la valeur pour redémarrer. Eh bien, il se trouve que le capitalisme, depuis quelques décennies, a trouvé une nouvelle mine dont il peut extraire de la valeur fictive. Alors, il y a la finance, bien entendu, avec Thatcher,
Oui.
etc. Mais il y a également le capital immatériel, la poésie, la langue. Eh bien, on va l'intégrer dans le PIB, ce qui permet de créer de la croissance illusoire, et en tout cas de donner l'illusion d'avoir un PIB important, d'avoir de la croissance. Et donc, aujourd'hui, Lady Gaga fait partie du PIB américain.
Et
Tu
c'est
vois? La poésie,
oui.
c'est qu'au fait, il leur a attendu, enfin, il leur a donné une piste, je veux dire, involontairement,
Oui, je te
inconsciemment,
comprends.
j'ai compris sa critique.
Oui.
C'est qu'elle ne prend pas la dimension qualitative en compte et qu'elle quantifie, etc. Mais le fait est que le capitalisme est quand même assez génial pour matérialiser même l'immatériel, je veux dire. Le capital immatériel, déjà, c'est un oxymore de parler de capital, qui par nature est quantifiable, et d'immatériel, ce qui ne relève pas du quantifiable, mais il a réussi à le faire.
Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pourquoi je trouve cette citation intéressante? Parce que c'est 68, juste avant son assassinat.
Oui.
Et le 68, c'est vraiment une année charnière. Tu vois, c'est l'émergence de. C'est quand on a vu la fausse dichotomie gauche-droite, le libéralisme libertaire en mai 68. Tu vois,
Oui.
pour reprendre ton exemple, c'est la droite, c'est la gauche qui ouvre la voie à la droite.
Oui.
Le jouir sans entrave, il est interdit
Elle est
d'interdire.
interdite.
C'est exactement le marché
Pas
qui doit s'étendre.
toute l'apologie de la pédophilie qu'ils cherchent à cacher aujourd'hui.
Exact.
Bacon Bendit, on se souvient
Exactement.
de. La
Exactement.
pétition qui a été signée par des intellectuels, par Foucault, par Simone de Beauvoir, qui appelait, voilà, c'était une affaire où il y avait deux adultes qui avaient été condamnés pour 5 ans de prison parce qu'ils avaient, je crois, filmé des enfants en train de faire du sexe. C'est que, voilà, une pétition, c'était pour les libérer et qu'on ne va pas emprisonner des gens pour des caresses et des baisers avec des enfants. C'est-à-dire, là, c'est toute l'élite intellectuelle gauchiste, les Foucault, les Sartre, les Simone de Beauvoir, etc., qui ont signé la pétition,
Mais
avec Pazneuf, d'ailleurs. Qui était l'initiateur de la pétition.
ton exemple est très intéressant parce que peut-être qu'on fera une émission sur Dostoïevski, mais quand Dostoïevski parle des nihilistes, c'est exactement l'exemple qu'il prend. Parce que, en fait, ce qu'il dit, c'est que pour un nihiliste, la pire chose à faire, c'est de faire du mal à un enfant. Et ça, il a vu la fulgurance, tu vois, le niveau
Ouais.
prophétique chez Dostoïevski, c'est absolument génial.
Exactement.
Il dit qu'en fait, les nihilistes, nos futurs libéraux, nos futurs Cohn-Bendit, exactement, pour aller
À la limite,
à la limite,
franchir la dernière ligne rouge.
la dernière ligne rouge, c'est faire du mal à un enfant. Et pas
Oui.
l'affaire Palma, justement, en ce
Ouais,
moment en France.
exactement, exactement. On
Ouais.
verra plein de surprises, à moins que voilà, ils se pendent miraculeusement, voilà, comme il s'appelle l'autre, l'Américain. J'arrive pas à mémoriser le nom de ces énergumènes.
Woody Allen?
Non, qui récemment s'est pendu dans une prison. L'affaire de Lille avec un avion, la
Ah,
Lolita,
Epstein.
Epstein, voilà,
Ouais.
un peu comme Epstein.
Ah, tu sais, Epstein aux États-Unis, ils en parlent ouvertement. Tout le monde est au courant de l'île, des gens qui allaient sur l'île. T'as le listing en France et ici, c'est blackout
Ouais.
total.
Bon, et bizarrement, c'est la photo de. Enfin, le portrait de Clinton qui a été retrouvé habillé en robe
Ah oui.
féminine, ouais. Pas celui de Trump.
Exactement, exactement.
Oui. Donc, on parlait d'eux. On a perdu le fil, on s'est égaré.
Ah oui, pardon. Donc, je te disais qu'à partir de l'affaire Dreyfus, t'as le
Oui.
libéralisme qui
Qui
prend la
investit tous les
totalité,
champs.
un fait social total, encore pour reprendre, qui devient un fait social total en France.
Oui.
Et t'as Macron. Parce que Macron, dans son livre Révolution, quand il voulait devenir candidat,
Ouais.
il s'est dit libéral et de gauche.
Ouais. Ni de droite, ni de gauche.
Ni de droite, ni, non, de gauche.
Au
Il
début.
se dit oui. Maintenant, il est né
Ah,
d'ordre
c'est gauche.
fluide,
Oui,
gender fluid, tout ce
oui.
que tu veux,
Il
mais.
vient théoriquement du Parti socialiste,
Exact. Il
formellement,
était
formellement.
ministre de l'économie
Oui.
sous Hollande.
Oui,
Exactement.
exactement.
Mais en fait, ce qui est important, c'est que plus le capitalisme plus le libéralisme doit se montrer sous son vrai visage. Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la jonction entre la gauche et la droite parce que le libéralisme ne pouvait plus se permettre la dispersion des voix. Parce que tu as un électorat, en fait, tu as des classes sociales.
Oui.
Un vote, c'est quoi? C'est des classes sociales qui se manifestent.
Oui.
On est d'accord?
On est d'accord.
Donc, à partir du moment où
En
il
tout cas,
y avait un éparpillement entre...
le vote intelligent est conscient. On
Exactement.
parle pas du vote manipulé où, effectivement, un prolétaire peut faire un vote bourgeois.
Oui.
C'est aliéné.
J'aime bien le terme, oui, merci. À partir du moment où le libéralisme ne pouvait plus se permettre l'éparpillement des voix entre le Parti socialiste et l'UMP, tu vois, le nouveau RPR, Macron est apparu pour absorber vers lui toutes les voix bourgeoises et empêcher la jonction entre les insoumis et le Rassemblement national. Parce que ça, c'était la grande peur en France, qu'il y ait un Salvini ou un... comment elle s'appelle
Mouvement 5 étoiles.
le mouvement 5 étoiles? Parce que c'est ça qui a permis l'émergence du mouvement 5 étoiles.
Oui.
C'est la jonction entre l'électorat
dit d'extrême droite,
dit d'extrême
électorat dit
droite.
d'extrême gauche. Ouais.
Exactement, merci.
Oui.
C'est ça.
Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller vers les Lumières?
Oui.
Le rôle.
Voilà. Je voulais...
Tandis que c'était des proto-libéraux. Quand on parle de Voltaire, quand on parle de.
Alors oui, le fameux Voltaire, les Lumières,
Ouais.
l'IDEC, tout ça.
Exact.
Le merveilleux Voltaire. Je voulais juste encore une fois, excuse-moi toutes
Oui.
ces citations littéraires, mais c'est juste pour
Non, mais c'est
montrer qu'il y a
bien.
des jonctions à faire
Oui.
et qu'on peut retrouver des critiques du libéralisme chez Dostoïevski, chez tous les grands en fait. Tous les
Oui.
grands ont vu venir cette...
Oui. Alors, veux-tu nous lire quelque chose ou.
Non, je voulais juste citer Alfred de Musset. Alors imagine, il a une fulgurance aussi absolument magnifique où il dit tout. Il s'adresse à Voltaire. Et il s'adresse à Voltaire. Voilà. Dors-tu content, Voltaire, et ton lit de sourire? Voltige-t-il encore sur tes eaux décharnées? Ton siècle était, dit-on, trop jeune pour te lire. Le nôtre doit te plaire et tes hommes sont nés.
C'est beau.
C'est magnifique. Et tes hommes sont nés, ça veut dire que l'anthropologie que tu as voulu,
Elle est là.
elle est là.
Elle est advenue.
Et lui, le Musset, le romantique, déplore l'absence de beau, de bien, et il le reproche à Voltaire.
Oui.
Et il a parfaitement raison parce que c'est à cause de Voltaire, par exemple, lorsqu'il dit lorsqu'on en arrive à l'argent, tous les hommes sont de la même religion. C'est du Voltaire dans le texte, tu vois, c'est du
Oh.
libéralisme dans le texte. Ça veut dire on laisse tomber les valeurs, mais à partir du moment où l'argent sera l'étalon et il arrangera toutes les relations humaines et on arrivera à une paix sociale parce que le commerce adoucit les mœurs.
Oui, mais après, bon, j'apporterai une petite nuance en recitant la même citation de Jung dont tu as parlé, c'est que les hommes croient avoir des idées, mais ce sont des idées qui ont des hommes en réalité. Parce que là encore, c'est pas à cause de Voltaire, mais Voltaire n'était que le porte-parole d'un paradigme en devenir
Oui.
qui déjà commençait à s'installer avant. C'est-à-dire, il n'y aurait pas eu Voltaire, ça aurait été Jean-Jacques, ça aurait été n'importe qui d'autre qui aurait pu, voilà, devenir le porte-parole, être assez brillant pour incarner littérairement. Ce capitalisme en devenir qui commençait déjà avec les manufactures, avec le commerce triangulaire, tout ce qui venait d'Angleterre en réalité. C'est l'épicentre de ce monde libéral à cette époque-là. Donc c'est juste pour être un peu juste avec Voltaire, parce que Voltaire, oui, est une crapule à tous les niveaux.
C'est le BHL de l'époque.
Voilà, mais on ne peut pas lui imputer le libéralisme en disant que c'est à cause de lui qu'on est entré dans un monde où il y a de la laideur. Enfin, il a contribué en
Oui,
tant que porte-parole,
personnifié,
voilà,
exactement. Mais
en tant que vecteur, mais.
exactement. Pour en venir encore à la citation de Jung, René Guénon parlait de suggestion collective. Et pour lui, c'était, pour reprendre la terminologie de Guénon, c'était les supérieurs inconnus. C'était eux qui instauraient ce genre
Oh.
d'idées au sein de la population. Sinon, on peut les appeler, je ne sais pas, BFM TV, les médias, la fabrique du consentement pour Chomsky. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que c'est l'entropie humaine. Qui va du premier souffle divin vers le libéralisme tel qu'on le
Exactement.
vit aujourd'hui.
Exactement. Alors, Voltaire, à part Voltaire, parce que, bon, tu parlais de Hobbes tout à l'heure, avec cette anthropologie négative,
Oui, l'homme est un loup pour voir.
qui d'ailleurs finit par donner même une définition négative de la liberté, pas au sens péjoratif, négative au sens que c'est la liberté est une limite.
Exactement.
C'est-à-dire, voilà,
Je me rappelle
la
qu'on avait
célèbre
appris
phrase, ma
ça.
liberté s'arrête là où commence la liberté de
Exactement, au
l'autre.
collège. Et on nous
Et.
avait appris ça, pardon de t'avoir interrompu, on nous avait appris ça comme si c'était
Voilà.
la définition
Mais t'es une
parfaite,
révélation divine, voilà,
révélation
indiscutable.
divine, exactement.
Et puis il y a également la modernité libérale qui parachève cette liberté négative en l'invoquant et en l'utilisant toujours comme étant un mouvement d'émancipation. et pas comme étant une réalité anthropologique. C'est-à-dire la liberté, c'est un mouvement permanent. C'est toujours se libérer de. Se libérer de l'État, se libérer de la religion, se libérer de la famille, se libérer des croyances. Mais ce n'est jamais une liberté en vue de. Ce n'est
Exactement.
jamais une liberté constructive. C'est jamais la liberté de se rapprocher de Dieu, la liberté de faire le bien. Non, c'est toujours une liberté émancipatrice, c'est-à-dire une liberté négative, qui ne se fait que par la déconstruction, qui ne se fait que par l'éclatement de tout ce qui empêche ce mouvement du progrès. Et donc là, c'est pour l'anthropologie négative. Mais le libéralisme, parmi ses précurseurs, on va dire comme ça, il y a également une lecture positive, une anthropologie positive, notamment celle de Jean-Jacques Rousseau. Qui est un peu en contraste
Tu
par rapport à
parler de Rousseau
voilà
parce que
est-ce qu'il fait la part des choses Michel entre au sein même du libéralisme entre ces deux courants différents?
pas vraiment, c'est vrai qu'il y avait des échanges sulfureux entre Voltaire et Rousseau, mais
Oui, bah d'ailleurs Voltaire a tout fait pour faire tuer Rousseau
exactement.
au-delà des échanges sulfureux ouais.
Mais le seul qui utilise vraiment Rousseau pour fonder une nouvelle terminologie, c'est Kluska.
Oui.
Michéa, pas vraiment.
D'accord. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre chez Rousseau.
Oui.
Même si on est authentiquement de gauche, pas du gauchisme libéral, il y a des choses extrêmement intéressantes chez Rousseau. C'est bien sur le plan politique que juridique, culturel.
Il y a le déisme qu'on retrouve chez
Oui.
Robespierre à
À
travers
travers
Rousseau.
Rousseau, effectivement. Oui.
Parce que tu as raison, en fait, c'est des courants de pensée. Là, je te parle de Michéa, c'est pour pousser les gens à lire, mais c'est vrai c'est un mouvement que je représente comme comme une totalité dialectique, mais c'est vrai qu'il y a des courants.
Bon, après, effectivement, là, on parle, on est limité par le temps, il faut simplifier, il
Oui,
faut aller
oui,
droit au but.
oui.
Effectivement, si on a le temps, on peut entrer dans le détail des différents courants, des contradictions internes propres au libéralisme, comme ce fut le cas pour le communisme et pour les autres idéologies.
Mais pour ceux que ça intéresse, le Marquis de Sade, c'était un critique, en fait. Un critique interne, un espion au sein du, en fait, celui qui montre ça, c'est Pasolini. À travers son film Les 120 jours de Gomorre, il montre que le libéralisme poussé à son extrême, ça aboutit au fascisme, en fait. Je ne
Mais
sais
un
pas si je suis clair ou
fascisme
pas.
très subtil et très pervers, c'est-à-dire pas un fascisme frontal, c'est-à-dire
Un fascisme qui va jusqu'au corps, jusqu'au
voilà,
sadisme.
oui. D'accord, parce qu'effectivement chez le Marquis de Sade, le Marquis de Sade c'est quand même un être assez complexe,
Oui, bien sûr.
abject bien entendu, mais il y a beaucoup de théories selon lesquelles en fait c'était davantage des fantasmes qu'il
Exactement.
extériorisait que des réalités qu'il pratiquait. Je veux
Il
dire
était en
que
prison, il faisait
il a
que.
passé l'essentiel de sa vie
Exactement.
en prison. Tantôt il était pour la peine de mort, tantôt il était contre, en fonction de est-ce que voilà, c'était ça se
Est-ce
rapprochait
qu'il
de
était en
lui ou
prison ou
pas.
pas?
Voilà le
Mais j'ai fait une tautologie, j'ai parlé du sadisme en parlant de ça.
de
Mais
Sade,
ça montre
voilà.
que
Oui,
qu'il a même donné son nom à une perversion.
effectivement, qui fait partie malheureusement de la nature humaine et qu'il faut dompter, domestiquer. Là, on va entrer dans Jung et dans l'archétype de l'ombre qu'il faut apprendre à intégrer.
Ah, Jung, je devrais m'y intéresser. Ça fait longtemps que tu m'en
Ouais.
parles, je devrais m'y intéresser. Mais
Alors,
tu as bien fait, pardon, excuse-moi,
oui.
tu as bien fait de parler de mouvement, parce que c'est une terminologie aussi qui est propre au libéralisme. Et je vais te citer encore un grand libéral devant l'éternel, c'est Helvétius,
Oui.
qui disait, si l'univers physique est soumis aux lois du mouvement, l'univers moral ne l'est pas moins à celle de l'intérêt. Parce que le libéralisme, c'est aussi ça, c'est reprendre la terminologie galiléenne.
Oui.
Pour gérer check and balances, tu vois, pour
Bah,
gérer les êtres humains.
c'est ce que Michel Kluska rappelle, pardon, c'est ce que Jean-Claude Michéa appelle la physique sociale.
Exactement,
Ouais.
exactement.
Cette volonté de régenter les liens entre humains selon une mécanique et une
Exactement,
logique physique.
exactement.
Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui également. Quand on voit toute l'ingénierie sociale qui est déployée par l'oligarchie à tous les niveaux, par rapport à l'Ukraine aujourd'hui, par rapport à la grippe d'il y a
Arrête
2 ans.
de parler de la grippe.
Voilà, j'ai dit grippe, comme ça l'algorithme ne m'a pas identifié. Ou même les GAFAM, je veux dire, comment ils arrivent par des algorithmes à créer des schémas d'addiction, à orienter les gens dans leur schéma de consommation. Au fait, ils sont dans cette logique de physique sociale, c'est-à-dire avec des marges d'erreur, parce qu'il y a toujours le libre arbitre qui permet un détachement, une forme de radicalité, mais avec la masse, avec ce corps amorphe, parce que la majorité, c'est du bétail, je veux dire, du point de vue de la souveraineté individuelle. Malheureusement, c'est toujours le fait d'une minorité, cette logique d'esprit critique et de détachement. Ben, ça marche avec la majorité des gens. Ça marche à tous les coups, l'Ukraine avant la grippe, et puis jusqu'à aujourd'hui avec les
Oui, mais
GAFAM, tous les mensonges.
là, je suis en train de faire le fier de te parler de Michéa. J'ai lu Michéa. Oui, mais moi aussi, je suis un libéral, je le déplore, mais tu vois, moi aussi,
Ah bah oui, bah on
on est
travaille,
tous.
on gagne de l'argent, je veux dire ça de.
Non, mais même dans nos comportements égoïstes avec
Oui.
ceux qui sont proches, mais au moins, pourquoi j'insiste
Néanmoins, on en
autant?
a conscience, je veux dire, on tente de lutter contre. On tente de
Exactement.
faire un travail sur soi, contrairement à d'autres qui s'y complaisent.
Mais j'incite vraiment les gens à lire Michéa juste pour comprendre déjà, parce que c'est du concept, mais c'est du concept light,
Pas accessible, on va dire.
accessible. Et désolé pour l'anglicisme. Tu vois que je suis un libéral
Voilà, c'est déjà par la langue.
par la langue, exactement.
Alors maintenant, bon, on a fait le diagnostic du libéralisme tel qu'il a été fait en partie par Michéa. Maintenant, qu'est-ce qu'il propose comme alternative, comme dépassement au libéralisme?
Mais est-ce que tu veux qu'on revienne sur le clivage gauche-droite? Je ne sais pas si j'ai été clair ou
On peut y
pas
revenir
sur la
à.
genèse.
Si, globalement, on a été clair, on peut y revenir lors d'un prochain épisode, parce que, bah, y a énormément de choses qu'on a voilà, parcourues rapidement, mais je pense que les auditeurs s'intéressent à voilà, faire le diagnostic, ça, globalement, beaucoup de gens le font, à leur manière, avec des degrés de pertinence différentes. L'alternative, c'est là le plus compliqué. Est-ce qu'ils s'aventurent sur ce terrain-là?
Personnellement, si je peux me permettre un jugement critique, c'est là où je trouve le talon d'Achille de la théorie de Michéa. C'est de partir de la common decency
Torwell,
d'Orwell pour dire que les gens sont capables du bien et que le libéralisme, que la nature de. C'est là où il est rousseauiste, que la nature de l'homme est fondamentalement bonne et que c'est le libéralisme qui a fait en sorte
De corrompre
de
les gens.
corrompre les gens. Et il part du peuple pour aller vers la nation. Alors que moi, en bon guénonien, si je peux me permettre, je ne pense pas que le bien puisse émaner de l'être humain. Je suis plus pour une verticalité religieuse,
Métaphysique en tout cas.
métaphysique, exactement.
Bah, d'ailleurs, là, on retrouve la lecture de Francis Cousin, selon laquelle, voilà, c'est-à-dire une fois le mode de production capitaliste, voilà, une fois qu'il implosera sur lui-même, on aura une émancipation, une forme de joie, de vitalisme, et que les gens redeviendront mais meilleurs qu'ils ne furent à l'époque du paléolithique. Donc, une forme de bonté qui n'attend que de s'exprimer avec les. Enfin, pareil, je n'y crois pas. Je veux dire, quand on est réaliste et quand on lit Jung, notamment Gilbert Durand, enfin, tous les gens qui ont travaillé sur l'imaginaire profond de l'humanité, on sait très bien que ces dialectiques dont on parle, elles sont également vraies à l'intérieur de l'âme humaine. Je veux dire, elles sont portées par l'homme, peu importe l'époque, peu importe le mode de production capitaliste. Même à l'époque du paléolithique, il y avait toujours un salopard dans la tribu, voilà, pour. Voilà, pour jalouser, pour tendre un piège à son prochain, pour. C'est dans la nature humaine. Après, oui, on peut obtenir un minimum de méchanceté des gens par un travail au niveau de l'âme, un travail spirituel, un travail métaphysique, mais voilà, on ne va pas créer de l'homme nouveau. C'est-à-dire, d'où le fait que l'homme pur a été projeté au niveau post-mortem par les religions. Ce que quelque
Exactement.
part, elles admettent, c'est qu'il ne peut pas l'être ici. Et que,
Exactement.
voilà, que cette ombre dont parle Jung, ou. Ce démon, pour reprendre les Grecs, bah, au fait, c'est ni notre ennemi ni notre ami, mais il est le moteur et la locomotive d'une dialectique qui nous permet de nous améliorer. C'est un chemin initiatique qui ne se termine jamais, qui ne se termine qu'avec la mort en réalité. Donc là, je pense qu'on s'est rejoint. Mais donc, sa lecture, c'est que voilà, une fois la chape de plomb du capitalisme, voilà, une fois levée, bah, la nature humaine va jaillir et voilà, on redeviendra globalement gentil.
Exactement. Pour lui, par exemple, il y a des mythes fondateurs du libéralisme. Par exemple, le troc, tu sais, le
Oui,
fameux, au début, on s'échangeait des
voilà.
choses et
Puis on s'est
après,
dit, on se fait
on est
chier pour
arrivé
rien,
à Wall
voilà.
Street, on a inventé la monnaie, ce genre
Oui.
de cosmogonie, d'évier. Pour lui, il revient aux travaux de Marcel Mauss et il dit que il rejoint aussi David Graeber, que je conseille aussi, qui est
Qui
très
est mort
intéressant.
il y a quelques années, je crois, il est mort il y a 2 ans.
Oui, l'un des fondateurs du mouvement Occupy Wall Street.
D'ailleurs, il a écrit le célèbre livre qui avait fait un carton en termes de vente, La dette, 5 000 ans d'histoire.
Exactement.
Oui, mais également pas la médiocratie, ça c'est l'autre
Bullshit Jobs.
bullshit jobs, voilà,
Un magnifique livre
oui.
aussi. Je te disais, ils reviennent tous les deux à Marcel Mauss pour
Oui,
dire
le
qu'en fait,
don, le contre-don.
exactement, que le fait, c'est pas le troc qui est à l'origine des rapports sociaux, c'est le donner, recevoir, rendre. Et ça, c'est très important chez Michel. Il
Oui.
utilise beaucoup Marcel Mauss. Et je te disais, c'est là le talon d'Achille, à mon humble avis, chez Michel, c'est ça. C'est de croire à la bonté humaine, à la common decency, et de citer aussi Orwell énormément, qui était anarchist Tory, c'est-à-dire anarchiste conservateur. Et pour Michel, à un moment, il faut être conservateur pour lutter contre le libéralisme. Mais après, il appelle à un moment conservateur.
Mais après, le problème des conservateurs de gauche, et on peut se permettre l'expression, c'est qu'ils ont une faille structurelle, c'est qu'on ne peut pas être conservateur si on n'a pas de base métaphysique, de fait. Car le conservatisme, c'est le fait de conserver ce qui est de meilleur. C'est pas de conserver tout, conserver ce qui est de meilleur. Et donc là, ça pose également la question du référentiel, qui était l'une des problématiques du libéralisme et qui l'a amené à choisir la marchandise et le marché comme étalon. Eh ben, quand on refuse le marché comme étalon, qu'est-ce qu'on propose comme alternative, comme étalon? Qu'il s'agisse d'Orwell, de Michel, etc. C'est-à-dire, si on ne renoue pas, ou non, si on réinvente pas un nouveau rattachement métaphysique à quelque chose de supramondain, eh ben, on finira par faire un long détour en s'éloignant du libéralisme, mais pour mieux y revenir après. Parce qu'effectivement, ça va être quoi? C'est le peuple, c'est le référentiel des talents. C'est ce qui est adoubé par le peuple qui va être, voilà, comme dit Saint-Cy, c'est ce qui émane du peuple. C'est un exemple de
Exactement.
compromis organique qui se fait, etc.
C'est la démocratie, c'est le Kratos qui a le démos.
Qui a le démos, mais on voit bien que là encore, comme le libéralisme empirique est éloigné à des années-lumière du libéralisme théorique, et bah pareil, si on prend le peuple comme étalon de mesure pour la commune dit Saint-Cy, bah sur le papier ça paraît beau, le peuple ça paraît comme étant un corps pur, bon par nature, mais le peuple empirique, c'est masse manipulable,
Oui,
voilà, qui
celui
dans un
qui nous
schéma
a
de.
obligés à s'injecter des choses pas très
Des
catholiques,
produits, voilà,
des
exactement,
produits.
ni orthodoxes d'ailleurs. Ni musulmans, enfin. Bon, donc effectivement, donc le peuple ne peut pas servir de soubassement métaphysique pour un nouveau
Oui,
rapport à l'autre, et etc.
on est d'accord. Voilà, c'est le seul reproche humblement que je pourrais faire à Michel. Mais je conseille vraiment aux gens de le lire
Oui, après, le but c'est de lire,
et comme
mais.
il le dit lui-même, il écrit toujours le même livre. Donc, si vous lisez L'Empire du moindre mal et que vous rajoutez peut-être La double pensée ou Un passe Adam Smith, vous pouvez passer à autre
Bon,
chose.
il n'est pas le seul, il y a également Michel Onfray qui a réécrit 80 fois le même livre. Bah, la seule différence, que Michel a au moins un bon livre qu'il a réécrit plusieurs fois.
Ouais.
Contrairement à Onfray. Alors, avant de terminer, il y a un autre intellectuel très très intéressant, par bien des aspects, que tu veux mettre en relation avec la pensée de Michel, ou
Oui.
peut-être même que Michel l'évoque,
Michel
j'imagine.
l'évoque, oui.
On parle de René Girard.
Oui.
Alors, René Girard. Qui a été à l'origine d'un certain nombre de concepts ou de grilles de lecture qui vont faire florès dans différentes disciplines, dans le désir mimétique, dans la théorie du bouc émissaire, qui permet d'expurger un peu une communauté du cumul des tensions, etc. Alors, qu'est-ce que vient faire la pensée de René Girard chez Michel?
Pourquoi je tenais à te parler de René Girard? Parce que Michel le cite, et c'est là où on va l'utiliser pour montrer que la commune des Saint-Cy est le point faible de la théorie de Michel. Parce que très 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 grossièrement, j'espère que les Girardiens ne m'en voudront pas, très très grossièrement, la théorie de Girard, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, il y a une entropie chez les êtres humains, dans n'importe quelle société. À un moment, il y a le désir mimétique qui fait exacerber les tensions sociales. Donc, que
Alors déjà,
fait.
pour expliquer pour les gens qui ne connaissent pas le
Ouais.
désir mimétique, c'est qu'on désire toujours le désir de l'autre. C'est un peu ça l'idée.
Principalement.
Parce qu'une femme n'est désirable que quand elle est désirée par quelqu'un.
Ah,
Je me
merci
mets à
d'avoir
la.
parlé de femme.
Bah oui, c'est l'exemple premier. Je veux dire, donc voilà, c'est comme imaginons, on a une clique d'amis avec trois garçons et une fille. En fait, ils sont amis, il n'y a rien. Il suffit qu'un seul garçon tombe amoureux de la fille, que les deux autres font également ressentir, voilà, des sentiments, et une rivalité va.
C'est la guerre
Voilà.
de Troie, c'est Paris qui voit Hélène de
Exactement,
Troie
exactement,
et qui
exactement.
déclenche.
Donc voilà, c'est le fait de dire que le désir n'est pas objectif, c'est pas je désire parce qu'une personne est telle, mais je désire le désir de l'autre. Et le
Exactement.
marché
À
se fonde
travers.
également sur cette
C'est
logique-là.
la publicité. Quand
La
tu as quelqu'un
pub.
de très connu qui te vante un produit,
Oui.
c'est l'application du désir
Exactement.
mimétique de René
Alors
Girard.
là, on a une parenthèse pour que les gens comprennent. Oui.
Oui, pardon.
Donc.
Et donc, à un moment, à force d'exacerbation de tension, la société choisit un bouc émissaire
Oui.
et le sacrifie.
Qui n'y est pour rien, ce qui est le
Qui n'est
propre même du
pour.
bouc émissaire, et on va le
Exactement.
lyncher, on
On
va
va le
l'accuser
lyncher,
de
on
tous
va le
les mots.
sacrifier. Et on va faire une catharsis de tous nos maux
Oui.
à travers ce bouc émissaire.
Oui. Alors, le désir mimétique, le bouc émissaire, Micha.
Alors, pour Michel, justement, le bouc émissaire de la société libérale, c'est les valeurs. On a sacrifié les valeurs, on en a fait un bouc émissaire, et la nouvelle religiosité, c'est le marché et le droit.
D'accord. Donc en fait, on a dit que tous les maux de l'humanité, c'est la religion, ça a donné des guerres, la haine,
Exactement.
etc. Donc on va sacrifier la religion, on va lui imputer tous les malheurs de l'histoire.
Et on va ériger en nouvelles idoles le marché. D'un
Oui.
point de vue de gauche,
Bon, au
et
départ, ça va.
pardon, le consentement,
Oui.
le droit d'un point de vue de gauche et
Oui.
le marché d'un point de vue de droite. Et
D'accord.
c'est la même dialectique, la même genèse. La même jeunesse, c'est ça qui est très important de comprendre. Alors, autant chez René Girard, qui est chrétien, c'est le Christ qui a pris sur lui tous les maux et s'est sacrifié pour que l'être humain aille mieux.
Et pour le libérer du péché originel, etc.
Et c'est le fondement de la chrétienté, donc retour des valeurs à travers Dieu qui se fait un. Ça, alors que chez le libéralisme, c'est tout à fait le contraire. Et c'est ce que dit Michel, en fait.
D'accord.
Et si on utilise justement la théorie girardienne, ça veut dire que tôt ou tard, on va se retourner contre le marché et le droit parce que l'entropie est ce qu'elle est et qu'on va fatalement terminer par la guerre de tous contre tous que Hobbes dénonçait dès le départ pour créer justement l'anthropologie négative
société ordonnée de l'être humain. Avec un État, Léviathan, etc.
Exactement.
Mais le fait est que, effectivement, le nombre de boucs émissaires étant limité, même s'ils sont nombreux, on peut dire que le libéralisme a déjà épuisé le bon nombre de boucs émissaires, que voilà, globalement, on fera le tour relativement rapidement, et que, faute de nouveaux boucs émissaires, cette violence pourra se retourner contre l'ordre libéral.
Et tu parlais justement du wokisme tout à l'heure.
Oui.
Par exemple, je te donne juste un exemple de la guerre de tous contre tous qu'on est en train de vivre. Par exemple, moi, en tant que, je ne sais pas, partisan du jeûne intermittent, si je te fais l'éloge du jeûne intermittent, je te dis, regarde, j'ai maigri. Tu auras forcément quelqu'un, un gros, qui s'estime être bien dans sa peau, qui va me traiter de grossophobe.
Que tu l'as heurté.
Et comme je ne peux pas ériger le bien ou la santé...
Ou le corps, comme,
le corps idéal, l'esthétique du corps, comme
chez les Grecs.
Comme chez les Grecs, merci. On va forcément terminer par une guerre de tous contre tous, où l'État ne pourra pas intervenir parce qu'il ne dit pas le juste, parce qu'il ne dit pas le bien, mais qu'il ne dit que le juste.
Mais comment ça a changé ? Parce que quand on voit le wokisme et le LGBTisme, etc., qui investissent depuis relativement longtemps l'appareil étatique, notamment à travers des ministres, à travers des gouverneurs, de grandes villes comme Londres, comme New York, on voit bien que l'État devient libéral, devient de moins en moins neutre, et devient le bras armé de cette logique-là de liquidation de toutes les valeurs, etc. Donc peut-être qu'on est entré dans un nouveau paradigme.
Mais il y a la très belle formule de Youssef Hindi dont je te parlais la dernière fois, je trouve.
Salut à notre ami Youssef Hindi qui nous regarde, j'espère.
Oui, je le salue, je ne l'ai jamais rencontré, j'ai beaucoup de respect pour lui. En fait, c'est pour ça que quand on a choisi un auteur, on n'a pas parlé de Kluskar, parce que Kluskar parle de capitalisme, de la séduction, on est déjà dans une phase post-séductive du capitalisme. Et il a cette très belle formule, Youssef Hindi, on est passé d'une société de consommation à une société de consommation, où le libéralisme est en train de consommer ses concitoyens.
C'est un peu comme le dieu Chronos qui dévore ses propres enfants.
Exactement.
Donc on est ce que j'appelle, moi, en parlant du postmodernisme, postmodernisme, la phase autophagique de la modernité, c'est-à-dire la phase où la modernité commence à liquider ses propres enfants, en fait, et donc à se liquider elle-même. Bah en tout cas, merci infiniment, Mohamed Samdé. Je pense qu'on a globalement fait le tour. Ah bah, il est inépuisable. Alors,
non,
quoi d'autre ?
Je voulais juste te citer, je pense, la meilleure critique que j'ai lue humblement, encore une fois, du libéralisme, c'est dans Les carnets du sous-sol de Dostoïevski.
Oui, alors je vais le mettre en descriptif.
Je te lis juste
oui, volontiers,
passage, allez. Et après on en a terminé. Alors il parle de l'homme libéral. Couvrez-le de tous les bonheurs du monde. Noyez-le la tête la première pour qu'il ne lui reste que des petites bulles à glouglouter à la surface de ce bonheur comme sur une mare. Donnez-lui une suffisance économique telle qu'il ne lui reste rien à faire sinon dormir, manger de la brioche et s'agiter. L'histoire de l'homme ne s'arrête pas. Lui, l'homme, une seconde plus tard, par pure ingratitude, par pur désir de nuire, il vous fera une entourloupe. Il ira jusqu'à remettre sa brioche en jeu et se souhaitera exprès les bêtises les plus catastrophiques, la plus anti-économique des absurdités, dans le seul but de mélanger à toute cette raison si positive son élément fantastique fatal. Si vous me dites que même cela, on peut le calculer sur des tablettes, le chaos, la nuit et la malédiction, que c'est la seule possibilité du calcul préalable qui arrêtera tout et que la raison reprendra le dessus, alors l'homme fera exprès de devenir fou pour perdre cette raison et s'obstiner dans son idée.
Que peut-on dire après ça ? Bon, en tout cas, voilà, on termine avec une note de profondeur et de complexité. D'ailleurs, j'invite les gens à découvrir Dostoïevski et j'espère qu'un jour, on pourra en parler. Parce que...
Si tu me réinvites.
Ça dépend de la réaction des auditeurs. Non, je plaisante, avec grand plaisir. D'ailleurs, je suis un passionné, un amoureux de Dostoïevski. Et je pense que notre jeunesse, alors au Maroc, mais pas uniquement... doit à tout prix, en ces temps, peut-être il sera bientôt interdit, vu la russophobie que le vit le monde occidental actuellement.
Mais tu vois, le confinement n'a pas eu
Ouais.
que du mal parce que
La
ça faisait
lecture.
des années que je voulais lire Dostoïevski. Pendant le confinement, j'ai lu Crime et Châtiment, Les Carnets du sous-sol,
Ça fait longtemps
L'Idiot.
dont que je t'ai parlé de
Oui,
Dostoïevski et
c'est
de
grâce à toi.
L'Idiot, Crime et Châtiment,
Exactement.
etc.
Mais je conseille aux gens la nouvelle traduction.
Oui, parce
Moi, je ne suis pas un
qu'effectivement, la
progressiste,
traduction
on
est
vient pour montrer
importante.
qu'on n'est pas
Ouais.
des progressistes, mais la nouvelle traduction chez Babel de André Markovitch, il a redonné vraiment de la dynamique aux écrits de
C'est vrai qu'il y
Dostoïevski.
a chaque langue a sa musicalité, que quand on traduit, forcément on trahit et qu'on perd un peu de cette musicalité. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire des relectures en cherchant la bonne traduction, effectivement. Bah, le mieux, c'est de lire en russe directement, mais bon, on va pas demander aux gens d'apprendre le russe sur le tas. Bon, en tout cas, merci infiniment, Mohamed
Merci
Fardé,
à toi.
et j'espère te revoir prochainement
À
pour
très
parler de
bientôt.
Dostoïevski, peut-être également d'autres auteurs. Et je remercie également tous les auditeurs et toute la communauté ODC TV de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.